Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christine Doucet. Bonjour Madame Doucet.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence émérite.
Absolument.
De l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous avez été membre de ce laboratoire de recherche en histoire sur France-Espagne, il s'appelle le FRAMESPA. Et aujourd'hui, nous vous accueillons pour un petit opuscule que vous avez publié aux éditions Midi-Pyrénéennes dans cette série sur les dates qui font l'histoire de Toulouse. On vous reçoit sur 1799, les royalistes en échec lors d'une insurrection.
Absolument, l'histoire d'une insurrection royaliste qui s'est déroulée à la fin du Directoire, qui a eu une importance assez grande dans l'histoire de la région pendant la période révolutionnaire, mais qui n'est pas véritablement passée dans la mémoire collective, qui est assez oubliée aujourd'hui.
Alors pourquoi ? C'est vrai que dans la saga toulousaine, on pense aux événements liés aux guerres de religion. Tout le monde pense à ce qu'on a fêté jusqu'à après la Révolution, la délivrance, hein, et la sortie des protestants dans des conditions terribles hors les murs. Et pour ma part, je l'ai découvert, grâce à vous, l'importance de ces journées. J'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu le contexte de gouvernance dans lequel nous sommes en 1799.
Absolument. Alors, peut-être quand même avant, pour reprendre la comparaison avec 1562, les combats qui ont lieu en 1562 entre les protestants et les catholiques ont eu des conséquences et des répercussions très fortes et très durables. Alors que pour les événements de 1799, on n'a pas eu du tout le même effet. Ça a été important sur le moment, mais les conséquences à moyen ou long terme n'ont pas été du tout de la même importance. Alors, le contexte de gouvernance, on est à la fin de la période révolutionnaire, puisque ces événements se passent pendant l'été 1799, en août 1799. Dans le calendrier révolutionnaire, c'est l'ancêtre. Et on est pendant la période assez mal connue aujourd'hui, qu'on appelle le Directoire. Donc la France, à ce moment-là, est une république. Elle est devenue une république depuis 1792. Mais on est après la période qu'on appelle encore aujourd'hui assez communément la terreur, qui s'est terminée en 1794 avec la mort de Robespierre et de certains de des membres de la Convention qui le suivaient, qui l'entouraient. Donc c'est une période, le Directoire, qui a longtemps souffert d'un discrédit important, parce qu'elle se situe entre une période glorieuse pour certains ou repoussoire pour d'autres, qui est la grande épopée révolutionnaire avec les grands noms de la Révolution. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, Napoléon Bonaparte, voilà, et la gloire qu'il s'est acquise. Là, on a plutôt des personnages moins importants. Et c'est une période également, une période d'instabilité politique, puisque les gouvernements successifs ont du mal à trouver une assise solide entre deux oppositions. D'un côté, une opposition royaliste qui refuse la République, qu'elle assimile à la période de la terreur, etc. Des royalistes qui eux-mêmes sont assez divisés d'ailleurs sur ce qu'ils souhaiteraient. Et puis, de l'autre côté, une opposition de gauche républicaine qu'on appelle classiquement jacobine, qui se réclame de la République démocratique, du suffrage universel de 1792, alors que cette République-là, c'est une République qui a réintroduit, par exemple, le suffrage censitaire, et donc qui repose sur l'idée que le gouvernement doit être confié à ceux qu'ils appelaient les meilleurs, c'est-à-dire, en gros, à la bourgeoisie.
Oui. Donc nous sommes à Toulouse, et est-ce que la conscience d'appartenance à la République est très très forte ? Et qu'en est-il de la zone environnante, c'est-à-dire de la campagne ? Est-ce que on a la même attitude, hein, par rapport à l'ordre républicain ?
Eh bien non, il y a des différences assez fortes entre villes et campagnes, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres régions. Alors Toulouse, qui est quand même à l'époque une assez grande ville, hein, d'environ 50 000 habitants, c'est une ville qui, à cette époque-là, est une ville qui est vraiment républicaine et qui est même plutôt de sensibilité jacobine. Et cette ville, d'ailleurs, elle a, par rapport au reste de la France, une évolution assez spécifique parce qu'il y a vraiment une sorte d'enracinement dans un jacobinisme local qui se maintient assez fortement. On publie, par exemple, un journal local qui s'appelle l'Observateur républicain ou l'Antiroyaliste, donc qui affirme bien les positions. Alors que dans les campagnes, on a, certes, des républicains, il y en a, mais dans la population majoritairement paysanne, il y a un certain nombre de points qui font qu'une partie de cette population a tendance à s'éloigner de la République, voire à refuser la République pour un ensemble de raisons, les unes qui sont déjà un peu anciennes, c'est plutôt la politique religieuse, et les autres qui sont plus récentes, on va dire, et qui sont liées à la conscription et au service militaire.
Oui, donc ce qui explique que le mouvement auquel on va assister, les événements auxquels on va assister à Toulouse, viennent de l'extérieur.
Oui, absolument. Alors, ils viennent de l'extérieur, d'ailleurs, un peu à tous les sens du terme, si je puis dire, parce que l'idée de déclencher une révolte, qui n'apparaît pas de manière spontanée, elle est née dans les rangs des mouvements royalistes qui existent dans la clandestinité et à l'étranger, dans l'exil, dans ce qu'on appelle l'émigration, où il y a ce qu'on appelait à l'époque des agences, qui étaient des sortes d'agences de renseignement, si vous voulez, qui transmettent en fait les informations et les directives entre les royalistes qui sont émigrés à l'étranger et puis ceux qui restent clandestinement en France et donc qui ont des réseaux. Et ce sont eux qui vont décider qu'il faut déclencher à un moment donné, des insurrections, des révoltes royalistes dans plusieurs régions de France, dont la région toulousaine. Et pourquoi ils décident de déclencher une révolte à l'été 99 ou à l'automne 99 dans d'autres régions? C'est parce que le contexte politique, diplomatique et militaire leur paraît favorable à ce moment-là. Sur le plan intérieur, le directoire est particulièrement attaqué un peu de tous côtés, donc il y a beaucoup d'instabilité politique qui viennent un peu de tous les camps, il y a une sorte de changement à plusieurs reprises du gouvernement.
Par coup d'État successif.
Par coup d'État successif, oui. Où ce ne sont pas des vrais coups d'État, mais enfin, il y a une... disons que le gouvernement de l'époque, si vous voulez, il y a du mal à avoir une majorité au sein des assemblées...
décidément.
Des assemblées législatives, et ce sont des choses qui arrivent. Donc, il est quand même assez fragile. Et puis, surtout, il y a un changement un revirement assez brutal sur le plan extérieur. Le directoire est un régime paradoxal, parce que c'est une époque où on a un régime qui, sur le plan intérieur, connaît des difficultés réelles, mais sur le plan extérieur, c'est une époque d'expansion et de conquête militaire. C'est le moment où la France conquiert une grande partie de l'Italie, c'est l'époque des premiers exploits napoléoniens.
Bonaparte voilà. Est en Égypte.
Et alors, à ce moment-là, Bonaparte est parti en Égypte, il y est toujours, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et il y a un revirement sur le plan diplomatique, ce qu'on appelle la deuxième coalition qui se forme entre différents pays européens contre la France.
Et donc, est-ce qu'il y a des complicités?
Il y a une reprise des combats et de la guerre en début 99. Mais alors que la France avait remporté toute une série de succès et de conquêtes, Là, au contraire, les troupes françaises connaissent défaite sur défaite. Et le pays n'est pas encore envahi, si vous voulez, mais les armées ennemies se rapprochent des frontières.
Oui. Est-ce que ceci a été un facteur qui a favorisé finalement dans les campagnes ou dans les villes ce mouvement qui est un mouvement contre-révolutionnaire?
Absolument, parce que en même temps, pour justement défendre le pays. Quelques mois auparavant, on avait mis en place une loi très importante, la loi Jourdan, qui organisait la conscription.
Ah oui.
Voilà. Qui donc prévoyait que les jeunes gens se feraient inscrire sur les registres tous les ans et qu'on appellerait un certain nombre de classes. Or, cette nouvelle loi, elle va entrer en application très vite et de manière assez rude, puisque justement la guerre s'étend, reprend, et on appelle classe oui. sur classe. Et donc il y a dans la région, dans le sud-ouest en général, et la région toulousaine en particulier, il y a un mouvement depuis que la guerre a repris en France, alors depuis 92-93, il y a un refus du service militaire.
Oui, la conscription avec toutes les injustices qu'elle entraîne. Donc, en vous écoutant, tout ça couvait dans les campagnes et vous ne pouvez pas être ignoré à Toulouse. Et nous allons voir la semaine prochaine ce qui va se passer à Toulouse. Merci beaucoup.
Bonne semaine.
Merci.